Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin.
Between the trees, the ground beneath my feet.
Mais bientôt, la fausse fiancée dit au jeune roi : Mon époux, mon bien-aimé, je vous prie, rendez-moi un service. Je le ferai avec plaisir, répondit-il. Eh bien, faites appeler les carisseurs pour qu'ils coupent la tête au cheval sur lequel j'ai voyagé, pour venir ici, parce qu'il m'a agacé en chemin. En réalité, elle craignait que le cheval ne se mette à parler et qu'il ne raconte comment elle s'était comportée envers la fille du roi. Au point où en étaient arrivées les choses, le fidèle Falada devait mourir. La nouvelle parvint aussi aux oreilles de la vraie fille du roi et elle promit en secret à l'écarisseur qu'elle lui donnerait une pièce s'il lui rendait un petit service. Il y avait dans la ville une grande porte sombre, par laquelle elle devait passer tous les soirs et tous les matins avec ses oies, et l'écarisseur devait fixer sous cette porte la tête de Falada, afin qu'elle puisse tout de même le voir plus d'une fois. Le garçon écarisseur lui promit donc de le faire. Il trancha la tête au cheval et la fixa sous la porte sombre. Tôt le matin, quand le petit Conrad et elle firent sortir les oies par cette porte, la fille de roi dit en passant : « Oh Falada, comme te voilà là !» Et la tête lui répondit, « Oh, jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait de chagrin, son cœur éclaterait. » Elle sortit de la ville sans mot dire, et ils menèrent les oies dans un champ. Et quand ils furent arrivés dans la prairie, elle s'assit et dénoua ses cheveux. C'était de l'or pur, et le petit Conrad se réjouit en les voyant briller. Il voulut lui en arracher quelques-uns, elle dit alors, « Souffle, souffle, petit vent, le chapeau de Conrad, prends et fais-le courir après lui jusqu'à que j'aie mes cheveux nattes et enroulés et que je me sois recoiffé. » Et il se leva un vent si fort qu'il emporta au loin le chapeau du petit Conrad, si bien que celui-ci dut le poursuivre à travers tout le champ. Le temps qu'il revienne, elle avait terminé de peigner ses cheveux et de se coiffer, si bien qu'il ne parvint pas à lui en prendre. Le petit Conrad se fâcha et ne lui parla plus. Ils gardèrent les oies ainsi jusqu'à ce que le soir vienne. Puis ils rentrèrent chez eux. Le matin suivant, quand ils firent passer les oies sous la porte sombre, la jeune fille dit « Oh, Falada, comme te voilà là !» Et la tête lui répondit « Oh, jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait, de chagrin son cœur éclaterait. » Et dans le champ, elle s'assit à nouveau dans l'herbe et se mit à coiffer ses cheveux. Conrad accourut pour les attraper, mais elle dit bien vite « Souffle, souffle, petit vent, le chapeau de Conrad prend et fais-le courir après lui jusqu'à ce que j'aie mes cheveux nattés et enroulés et que je me sois recoiffé. » Le vent se mit alors à souffler et emporta au loin le chapeau de Conrad, si bien que celui-ci dut le poursuivre. Quand il revint, il y a longtemps qu'elle avait réajusté ses cheveux, il ne parvint pas à en avoir un seul. Elles gardèrent ainsi les oies jusqu'au soir. Mais le soir, après qu'il fut rentré, le petit Conrad alla trouver le vieux roi et lui dit « Je ne veux pas garder les oies avec cette fille plus longtemps. »« Pourquoi donc ?» lui demanda le vieux roi. « Eh bien, c'est qu'elle m'ennuie toute la journée. » Le vieux roi lui ordonna donc de raconter comment se passaient ses journées avec elle. Et Conrad lui dit « Le matin, quand nous passons par la porte sombre avec le troupeau, il y a une tête de cheval qui est clouée au mur. » Elle lui parle ainsi « Oh, Falada, comme te voilà là !» Et la tête lui répond « Oh, jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait de chagrin, son cœur éclaterait. » Et il continua de lui raconter ce qui se passait dans la prairie des oies et comment il devait poursuivre son chapeau que le vent emportait. C'est un extrait du conte La Gardeuse d'Oie que vous venez d'entendre. La Gardeuse d'Oie, conte de Grimm, dont de nombreuses versions ont circulé en Europe, présente le parcours d'une jeune princesse qui cherche à gagner son autonomie en se séparant de sa mère. Mais les choses dans les contes comme dans la vie ne sont pas si simples et cet éloignement provoque bien des aventures. La Gardeuse d'Oie, une lecture psychanalytique du conte, troisième épisode. Je vous rappelle que ce conte est disponible dans son intégralité sur notre site internet radiograndciel.fr. Docteur Dominique Desmichel, nous nous sommes arrêtés il y a 15 jours, à un moment crucial du conte où la princesse sous la coupe de sa servante qui a usurpé son identité arrive au château de son fiancé et était donc envoyée garder les oies avec un petit garçon. Alors avant de reprendre la lecture linéaire de ce conte, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les grands enjeux de ce conte, hein? Donc, dans l'introduction, j'abordais effectivement cet éloignement, mais il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés. Alors, on en est où au niveau des grands thèmes, des enjeux que vous avez pu extraire de ce conte?
Moi, je trouve que votre introduction, c'était déjà une lecture au deuxième, au troisième ou au quatrième niveau, au fond. Parce que qu'est-ce que raconte d'abord et avant tout cette histoire? Elle raconte l'histoire d'une fille qu'il faut marier et puis qui part chercher ou trouver ou rencontrer plus exactement le promis qu'on lui a désigné, hein, au fond. Et puis, on pourrait penser que ça pourrait être une histoire banale. Voilà, elle se marie, ils eurent beaucoup d'enfants, point, c'est tout. Puis là, non, il y a une espèce de problèmes pendant le trajet, on l'a vu, c'est-à-dire elle a une servante, on va essayer de comprendre ce que signifie cette servante, et cette servante, en gros, elle lui pique sa place. Et quand elle arrive dans le royaume, la servante dit « c'est moi la fiancée, c'est moi la promise, je vais épouser le prince, et puis l'autre, pendant ce temps, eh bien, on va le... voilà, on s'en débarrasse, au fond, hein. » Donc, dans votre lecture, dans votre introduction, oui, il y avait quelque chose, il me semble, qui était très juste, à savoir que cette fille dont on se rappelle que elle est surtout désignée par sa fonction. Hein. Il y a une vieille reine, elle est la fille de cette vieille reine. Il n'y a pas de roi, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et puis elle va arriver dans un autre royaume où là, tiens, on se dit, il n'y a pas de reine, mais il y a un roi. Donc on écoute déjà un peu sur le plan symbolique qu'il y a une espèce de symétrie, qu'il y a un effet de miroir, quelque chose qui se passe. Et puis, le drame est accompli. On se dit, voilà, c'est foutu, elle va se retrouver à garder les oies. Et puis là, il y a un petit Conrad qui arrive.
Voilà, un petit Conrad. Donc je reprends le texte. Le petit garçon s'appelait Conrad et la vraie fiancée dut donc l'aider à garder les oies. Mais bientôt, la fausse fiancée dit au jeune roi « Mon époux bien-aimé, je vous prie, rendez-moi un service. Je le ferai avec plaisir, répondit-il. Eh bien, faites appeler l'écarisseur pour qu'il coupe la tête au cheval sur lequel j'ai voyagé pour venir ici parce qu'il m'a agacé en chemin. »
Alors là, on a envie de se dire « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. On pourrait imaginer d'autres choses. Par exemple, là, elle élimine le cheval. Hein, la servante, elle fait éliminer le cheval. On pourrait dire, dites au fait, la servante, là, vous n'avez pas envie de l'envoyer, je ne sais pas trop quoi, en Sibérie, à l'autre bout du royaume. Enfin, voilà, elle pourrait se débarrasser de l'autre, de la rivale, en quelque sorte, celle dont elle a pris la place. Non, elle se débarrasse du cheval. Donc, j'ai envie qu'on garde ça dans un petit coin en se disant que... il y a un danger représenté par ce cheval. On se rappelle aussi...
Que le cheval parlait, hein. Oui, voilà.
On se rappelle que le cheval parle. Alors, c'est sûr qu'un cheval
qui parle... Et qu'il est témoin de la scène, évidemment, d'usurpation d'identité. Hein.
Exactement. Et on se rappelle encore en plus que, malgré que ce soit un cheval qui parle, pour l'instant, il n'a rien dit. Ah, on peut continuer.
En réalité, elle craignait que le cheval ne se mette à parler et qu'il ne raconte comment elle s'était comportée envers la fille du roi. Là, ce que nous venons d'évoquer. Hein.
Exactement.
Au point où en étaient arrivées les choses, le fidèle Falada devait mourir.
On s'arrête, je vous coupe, excusez-moi, mais juste sur le mot, le fidèle Falada devait mourir. Alors on a envie d'écouter ça en se disant, dans la tête de la servante, ok, mais c'est peut-être pas tout à fait aussi simple.
La nouvelle parvint ainsi aux oreilles de la vraie fille du roi et elle promit en secret à l'écarisseur qu'elle lui donnerait une pièce s'il lui rendait un petit service. Il y avait dans la ville une grande porte sombre par laquelle elle devait passer tous les soirs et tous les matins avec ses oies et l'écarisseur devait fixer sous cette porte la tête de Falada afin qu'elle puisse tout de même le voir plus d'une fois. Docteur de musique Desmichel, je me suis arrêté parce que moi cette histoire de porte sombre, vous connaissant, ça doit évoquer pas mal de choses symboliquement. C'est un passage, une tête de cheval qui va se retrouver sur ce passage.
Oui.
Alors je pense évidemment aux contes qui sont souvent, comme nous l'avons vu, des histoires de passage dans la vie, d'évolution. Ouais. On est en plein dedans là.
Oui, tout à fait. Là aussi, on pourrait se dire, mais pourquoi elle ne va pas soudoyer l'écarisseur en lui disant, je ne sais pas, comme dans l'histoire de Blanche-Neige, hein, vous voyez, par exemple, avec le faux roi qui est là, qui doit assassiner Blanche-Neige, dont il prend une biche à la place. On pourrait dire que là, la princesse, la légitime en tout cas, elle pourrait dire à l'écarisseur, tu trouves un vieux cheval, tu lui coupes la tête, puis tu mets sa tête à la place. Non, c'est pas ça. Elle a l'air d'être d'accord, comme s'il y avait une nécessité à ce que ce cheval disparaisse. Deuxièmement, il semble qu'il faut qu'il y ait une rencontre entre les deux. Et puis, comme vous l'avez rappelé, comme je l'ai aussi rappelé tout à l'heure, bon, alors ce cheval qui parle, on a envie de se dire, il faudrait qu'il parle, et puis il va mourir. C'est quand même embêtant. Est-ce qu'il va parler quand il est mort ? Et puis, troisième point, vous avez raison de le souligner, il y a une histoire de passage, c'est-à-dire une histoire de rencontre. Il y a un lieu précis, la porte, c'est il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose qui se joue au niveau de cette porte. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer.
Alors, il y a également, dans ce petit passage que vous venez de lire, j'ai un sentiment que c'est la première fois que notre héroïne prend une décision.
Oui, tout à fait.
Elle est extrêmement passive depuis le début de l'histoire, ce qui lui vaut bien des malheurs, d'ailleurs. Il faut le dire, c'est sa passivité avant tout qui lui provoque bien des soucis. Et puis là, elle prend enfin une décision, on a envie de dire.
Elle prend enfin une
toute
décision.
Toute petite décision, hein. Elle sauve pas le cheval, mais elle prend quand même
une
décision.
Non. Et puis, la question de sauver le cheval n'a pas l'air de se poser. Il s'agit pour elle, au contraire, de mettre en scène une partie de ce cheval, une partie qui est la singularité de ce cheval, puisque on pourrait dire la parole se situe dans la tête, au fond, hein, en tout cas dans la tête et le cou du cheval.
Reprenons. Tôt le matin, quand le petit Conrad et elle firent sortir les oies par cette porte, la fille du roi dit en passant Oh, Falada, comme te voilà là. Et la tête lui répondit, ô jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait, de chagrin son cœur éclaterait.
Donc là, évidemment, je connaissais la suite, donc j'ai un petit peu anticipé, c'est un peu facile, vous me direz, mais on se dit que c'est comme s'il y avait eu la nécessité du sacrifice de ce cheval pour qu'il accède à la parole. Il y a quelque chose qui meurt dans ce cheval, et à partir du moment où cette partie-là du cheval est morte, alors il peut prendre la parole. Et il prend la parole pas directement, c'est pas lui qui parle en premier. C'est-à-dire, pour la première fois, il y a un échange entre la princesse et le cheval. C'est au fond le questionnement, ou en tout cas la remarque. Non, je dirais que dans l'ordre, c'est d'abord le désir. Il y a le désir de la princesse que ce cheval ne soit pas tout à fait sacrifié. Ou en tout cas qu'il soit sacrifié, mais que sa tête ait une place particulière. La deuxième, c'est qu'elle choisit l'emplacement. C'est à la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Hein. La porte, c'est ce qui permet de rentrer, on suppose, mettons, dans la ville. Hein, les oies étant gardées à l'extérieur de la ville. Et elle s'adresse à lui et elle le reconnaît. Ô Falada, comme te voilà là. C'est-à-dire, c'est comme si elle commençait à échanger une parole, alors que pour l'instant, elle a été plutôt muette, sauf à demander à sa servante de lui donner de l'eau dans un gobelet d'or qu'elle ne possédait pas. Voilà. Et à ce moment-là, le cheval répond. Et il répond quoi? Il répond en parlant de la mer.
Et il répond, c'est la même réponse que le petit mouchoir que nous retrouvons au début du conte, quoi. C'est la voix de la mer, finalement, qu'on entend.
Voilà, je crois que là, on pourrait se dire, dans une certaine mesure, en tout cas, c'est la voix de la mer. Hein. Donc, vous, dans votre introduction, et ça me paraissait vraiment intéressant, important et pertinent que vous introduisiez ça en se disant que cette jeune reine-là, cette jeune princesse, plus exactement, elle pouvait être en quelque sorte dans un lien de dépendance par rapport à ça, à la vieille reine. C'est une vieille reine, il ne s'agit pas de dire qu'elle a un nombre d'années important. Ça veut dire que sur le plan psychique, en tout cas, elle est destinée, au fond, à disparaître, voilà, en tant que reine au sens plein du terme. Hein. Et on voit bien que dans la filiation et dans la succession, il va y avoir une autre reine qui arrive. Hein. Le roi est mort, vive le roi. Hein. Il y a un roi qui disparaît, il y a un nouveau qui arrive, il y a une vieille reine, et là, il y a une nouvelle reine qui va arriver. Donc, je pense qu'on peut garder, et je trouve que ça me convient tout à fait ce que vous dites là, on peut garder ici l'idée que le cheval, c'est la parole de la vieille reine.
Je poursuis la lecture, donc. Elle sortit de la ville sans mot dire, et ils menèrent les oies dans un champ. Et quand ils furent arrivés dans la prairie, elle s'assit et dénoua ses cheveux. C'était de l'or pur, et le petit Conrad se réjouit en les voyant briller. Il voulut lui en arracher quelques-uns. Elle dit alors... « Souffle, souffle, petit vent, le chapeau de Conrad prend et fais-le courir après lui jusqu'à ce que j'aie mes cheveux nattés et enroués et que je me sois recoiffé. »
Alors moi j'aime bien ce petit passage hein, parce que ça commence... voilà, quand ils furent arrivés dans la prairie, elle s'assit et dénoua ses cheveux. Alors on se dit, bon, on avait deux chevaux, un qui parle, une histoire de conflit entre deux filles, une vieille reine, c'était pas très glamour, c'était pas très sexy, c'était pas très très... voilà. Tandis que là, d'un seul coup, c'est comme si on voyait une princesse telle qu'on l'a tous rêvé quand on était adolescent, et elle a des cheveux d'or. Et on s'aperçoit quand même que le petit Conrad, voilà, ça vient le titiller un tout petit peu. Pour moi, si vous voulez, il y a une première scène où il y a des sentiments, une sensualité, un début d'une érotique, au fond, qui se met en scène.
Même si le petit Conrad est du côté de l'enfance,
oui,
on imagine.
Oui, il est du côté de...
Et d'ailleurs, la princesse est peut-être encore du côté de l'enfance,
voilà.
Et là est son problème.
Voilà, elle n'est pas tout à fait du côté de l'enfance, puisque elle a des cheveux d'or, vraisemblablement, elle le sait. Et puis quand elle dit « souffle, souffle, petit vent, envoie balader le chapeau, comme ça le petit gamin il va courir après le chapeau », elle doit probablement sentir que ce petit gamin-là, il est un peu sensible à sa beauté, et tant mieux pour elle, et tant mieux pour lui aussi. Mais elle dit « oh, bah les pattes, quand tu auras un petit peu de moustache au-dessous du nez, on en reparlera ». En gros, il me semble que c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Et quand elle sera recoiffée, c'est-à-dire que de nouveau sa féminité en émergence, sa féminité en devenir, sera de nouveau un petit peu renfermée, contenue, alors il n'y a pas de problème avec le Korad, mais pour l'instant, on n'y touche pas.
Je reprends ma lecture. Et il se leva un vent si fort qu'il emporta au loin le chapeau du petit Conrad, si bien que celui-ci dut le poursuivre à travers tout le champ. Le temps qu'il revienne, elle avait terminé de peigner ses cheveux, de se coiffer, si bien qu'il ne parvint pas à lui en prendre.
On voit bien là aussi, hein, quand même, que c'est comme si elle mettait en scène, et j'allais dire qu'elle découvrait sa féminité, et qu'elle découvrait dans les deux sens du terme, c'est-à-dire elle enlève son couvre-chef, je ne sais pas ce qu'elle avait, un fichu ou quelque chose sur la tête, et puis elle la découvre elle-même, elle la découvre à Conrad, et elle la découvre à elle-même, c'est-à-dire elle met en scène quelque chose de cette féminité.
Alors qu'est-ce que les cheveux, la mèche de cheveux inspire aux psychanalystes ?
Moi, je dirais pas de choses extrêmement originales, à savoir que c'est quand même un lieu particulier de la féminité. Et j'allais dire, à la différence d'autres éléments d'une féminité qui est beaucoup plus intime, compte tenu que ce soit la poitrine, les organes sexuels, vous voyez, c'est une féminité qui s'affiche. C'est-à-dire, ça dit quelque chose du féminin. On sait bien que les femmes passent du temps chez le coiffeur, en tout cas un bon nombre passent du temps chez le coiffeur, alors que les hommes, ils vont chez le coiffeur juste pour couper leurs cheveux, point, c'est tout. Bon, c'est pas tout à fait vrai, c'est plus nuancé que ça. Donc il me semble ici, là, qu'il y a l'émergence de quelque chose, de cette féminité, que elle perçoit, que le jeune Conrad perçoit, et qui nous a donné à voir.
Le petit Conrad se fâcha et ne lui parla plus. Ils gardèrent les oies ainsi jusqu'à ce que le soir vienne, puis ils rentrèrent chez eux. Le matin suivant, quand ils firent passer les oies sous la porte sombre, la jeune fille dit « Oh Falada, comme te voilà là !» Et la tête lui répondit « Oh jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait, de chagrin son cœur éclaterait. » Et dans le champ, elle s'assit de nouveau dans l'herbe et se mit à coiffer ses cheveux. Conrad accourut pour les attraper, mais elle dit bien vite « Souffle, souffle, petit vent, le chapeau de Conrad prend et fais-le courir après lui jusqu'à ce que j'aie mes cheveux nattés et enroulés et que je me sois recoiffé. » Alors il se mit à souffler un vent très fort qui emporta au loin le chapeau de Conrad, si bien que celui-ci dut le poursuivre. Quand il revint, il y a longtemps qu'elle avait réajusté ses cheveux et il ne parvint pas à en avoir un seul et ils gardèrent ainsi les oies jusqu'au soir.
On retrouve, vous savez, ce rythme comme une ritournelle dans beaucoup de contes où il y a une action qui se répète parfois de manière identique, parfois avec des petites nuances. Voilà, il s'agit d'introduire un rite, d'introduire un rythme, mais un rythme surtout qui se fait rite, c'est-à-dire il y a quelque chose qui assure une continuité. Il y a une sorte de répétition pour dire l'importance de l'événement. Il me semble que l'importance de l'événement ici, c'est de dire que la jeune princesse, qui est quand même juste une gardeuse d'oie, met en scène sa féminité, que le Conrad, c'est encore un gamin et qu'il faut l'envoyer poursuivre son chapeau, et puis c'est tout. Voilà, et il va bien falloir qu'il se passe quelque chose maintenant.
Oui, nous nous voilà prévenus qu'au troisième coup, quelque chose va se passer, quoi.
Voilà.
Mais le soir, après qu'ils furent rentrés, le petit Conrad alla trouver le vieux roi et lui dit « Je ne veux pas garder les oies avec cette fille plus longtemps. » « Pourquoi donc ?» lui demanda le vieux roi. « Eh bien, c'est qu'elle m'ennuie toute la journée. » Le vieux roi lui ordonna donc de raconter comment se passaient ses journées avec elle, et Conrad lui dit « Le matin, quand nous passons par la porte sombre avec le troupeau, il y a là une tête de cheval qui est clouée au mur, et elle lui parle ainsi. « Oh, Falada, comme te voilà là !» Et la tête lui répond « Oh, jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait, de chagrin, son cœur éclaterait. » Il continua de lui raconter ce qui se passait dans la prairie des oies et comment il devait poursuivre son chapeau quand le vent emportait.
Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que le Conrad en question, le jeune peut-être préadolescent, on pourrait dire, ou au tout début de l'adolescence. Pourquoi début de l'adolescence ? Comme vous l'avez dit, parce qu'il est quand même sensible à la beauté de cette jeune fille et d'une beauté probablement un peu érotique quand même. On pourrait se dire qu'il va se plaindre au roi parce qu'il n'est pas content qu'il n'ait pas pu aller lui piquer deux, trois cheveux d'or ou j'allais dire peut-être lui faire un petit bisou volé par exemple, hein, lui prendre un petit bisou. Ben non, il dit ça, certes, hein, il dit que voilà, qu'il court après son chapeau, mais il dit aussi qu'il y a ce personnage extrêmement étrange et surtout ce dialogue extrêmement étrange entre ce cheval sacrifié, et on peut penser que le roi est au courant, en tout cas, même si la demande de la servante a été faite au prince, et la jeune princesse. Donc je crois que, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se nouer, comme si au fond, le personnage de Conrad, ici, devenait le porte-parole. Hein. Il est dans ce jeu de paroles, il y a eu un échange entre la servante et le cheval, mais ça pourrait en rester là, on pourrait imaginer que jusqu'à la fin des temps, elle passe par cette porte de la ville et qu'elle dialogue au fond avec, j'ai envie de reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, cette figure de sa mère hein, qui lui dit quelque chose de sa situation dramatique. Hein, « Moi, ta mère, mon cœur éclaterait si je le voyais pour de vrai, la situation où tu en es. » Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, et le Conrad, il vient rapporter au roi, donc c'est un discours d'homme, hein. Il y a le discours de femme avec la vieille reine, les deux filles, hein, la princesse et la servante qui se disputent, et puis de l'autre côté, il y a l'histoire des hommes avec le vieux roi et puis le Conrad.
Même si on sent que chez le Conrad, on est vraiment du côté de l'enfance, je le répète, parce que,
oui.
Eh bien, elle m'ennuie toute la journée, on l'entend dans les cours d'école, j'ai envie de dire.
Oui. Oui, dans ce temps-là où jusqu'à, on pourrait dire, enfin, dans cette longue période entre la fin de la période oedipienne, on va dire 6 ans, mettons, et puis le début de la puberté, en effet, les garçons et les filles vivent complètement séparément, et les filles, ça embête les garçons, et les garçons, ça embête les filles. Là, quand même, faut quand même se rappeler que Conrad...
Il veut prendre quelques cheveux, quoi.
Ouais, il a un peu envie de lui piquer des cheveux, et... Voilà.
Oui, alors notre émission, docteur Dominique Desmichel, va toucher à sa fin. J'aimerais juste avant qu'on termine, avant de nous retrouver dans 15 jours pour entendre la fin de ce conte, la situation de cette princesse, de l'héroïne, de presque l'anti-héroïne de notre conte, parce que elle est totalement passive là depuis le début. Elle reçoit des avertissements de la tête de cheval, mais elle n'en fait rien finalement. Qu'est-ce qui la retient? Qu'est-ce qui la bloque?
Ce qui me semble, c'est que, je vais reprendre ce que j'ai dit juste à l'instant, c'est qu'il y a un univers de femmes, et on a l'impression qu'il n'y a qu'un univers de femmes. Et donc, dans cet univers de femmes, c'est probablement difficile pour une jeune fille d'aller à la rencontre de son fiancé. Hein. Donc, il me semble que là, on voit l'émergence probablement un peu enfantine, mais pas infantile. Mais enfantine sous la forme de Conrad, et on va voir ici que l'autre personnage qui intervient, c'est le roi, c'est-à-dire la figure du père qui manquait dans le début du récit. Hein. Donc comme dans les contes, où la structure globalement fondamentale de la parenté est extrêmement importante, où il faut dans l'existence avoir de bonnes figures parentales intérieures, c'est-à-dire si possible un papa et une maman, à défaut un papa de substitution, une maman de substitution, ou encore à défaut la possibilité de partie intérieure, la partie masculine de la maman, la partie féminine du papa, qui viennent nourrir et structurer la possibilité de s'engager dans la vie en trouvant sa propre singularité.
Et le vieux roi est ici une figure relativement bienveillante dans le conte.
Oui, le roi est une figure bienveillante. On a vu antérieurement qu'il avait regardé et qu'il avait vu qu'il y avait un autre personnage, indépendamment de la servante qui se présente comme étant la princesse. Et puis voilà. Et on va voir dans la suite du conte qu'il va être en effet particulièrement attentif à l'écouter et qui va être celui qui va lui permettre de retrouver pleinement sa propre identité et surtout la globalité de son désir.
Merci beaucoup, docteur Dominique Desmichel, et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours.
Merci Simon, au revoir.